L'œuvre de Dieu se fait et avance. On va justement partager la parole de Dieu et nous arrêter quelques instants sur ce que Dieu nous dit, sur ce que Jésus nous dit. Alors, il nous a fait peut-être, dans le passage que je vais lire, il nous a fait peut-être le 20h avant l'heure. Et je ne voudrais pas décourager qui que ce soit, mais on va s'arrêter sur un élément d'actualité de l'époque. Ça vous intéresse ? Quel est bien le journaliste qui pouvait être là-bas ? Je ne sais pas s'il y avait des journalistes, mais la chose était connue. Les choses étaient connues, du moins. Vous savez, les nouvelles, ça va toujours vite. Et encore plus vite aujourd'hui, avec les moyens techniques, toute la technologie qu'on peut avoir. En un instant, l'information fait le tour de la Terre. Et on est de suite informé de tant de choses. Ce qui peut être parfois vertigineux, n'est-ce pas ? Et qui ne nous laisse pas beaucoup, parfois, de temps à la réflexion. On est comme bombardé de plein d'événements, de choses qui se produisent, de ce que l'un a dit, de ce qu'il n'a pas dit, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, et de ce qu'il aurait dû faire, etc. Et parfois, il faut prendre un peu de recul. Je voudrais m'arrêter sur ce passage de l'évangile de Luc au chapitre 13. On va en lire les 9 premiers versets. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Il dit aussi cette parabole : « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? » Le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Amen. Le Seigneur nous interpelle sur la nécessité d'un changement de cœur, de mentalité, de disposition intérieure. On appelle ça la conversion. C'est le sujet que Jésus aborde ici. Ah, c'est toujours un mot qu'on n'aime pas beaucoup, que ce mot de conversion. C'est souvent très péjoratif, utilisé de manière très péjorative, moqueur, parfois. Et c'est toujours difficile à considérer, mais des conversions, on en fait tous, à différents niveaux, pour différentes choses. Si vous venez à la montagne, si vous faites un peu de ski, des conversions, vous en ferez. C'est-à-dire qu'à des moments, vous changez vraiment de sens. Et c'est toute une technique que de changer de sens à ski. Soit vous emmêlez les pinceaux et vous retrouvez le nez dans la neige, soit vous réussissez. Mais des conversions, ce que l'on était, ce que l'on a pensé quand on avait 20 ans, est-ce qu'on en est toujours au même point ? Ben non, on a évolué. Il y a des choses sur lesquelles on était mordicus. Et puis, il y a des événements, des situations qui ont fait que, oui, on a été obligé d'accepter de penser autrement. Il y a des aspects de la vie qui s'imposent à nous et si on ne réforme pas notre manière de faire, on va droit dans le mur, comme on dit. Cette nécessité, à des moments, d'adopter des attitudes différentes. Et nous avons ici ce sujet. Alors, bien sûr, le texte relate ces récits de 2 faits dramatiques. Alors, vous allez me dire que nous, on y est particulièrement habitués. On en a à longueur de journée. Et c'est là où il ne faut pas être branché sur les chaînes d'information en permanence, sinon vous devenez fou. Vous perdez le sens des réalités. Ça vous amène dans des choses pas très agréables. Il y a donc ces 2 faits qui nous sont relatés et puis il y a cette parabole justement qui nous enseigne sur l'agir patient de Dieu à notre égard. Oui, nous le savons, nous sommes humains, on sait que des tragédies peuvent arriver. Mais vous savez, quand ça nous arrive, nous sommes frappés et, comment dire, on a l'impression qu'on l'est parfois avec davantage de force. Et ça nous amène parfois à être comme anéantis. Et ce n'est pas que nous soyons plus insensés que les autres. Ce n'est pas que nous soyons plus fous que les autres. Mais nous sommes confrontés aux mêmes contraintes. Alors nous lisons les journaux, nous regardons les médias, quels qu'ils soient, et nous sommes bombardés par toutes sortes de nouvelles. Et parfois, quand on arrive au bout du journal, on se dit « Bon, qu'est-ce qu'on a appris de bon là ?» Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et il y en a certains qui l'ont prétendu, s'essayer à donner que de bonnes nouvelles. Mais ça ne va jamais bien longtemps. Pourtant, il y en a. Il y en a de bonnes nouvelles. Il y en a de belles choses qui se passent. Il y en a de choses extraordinaires qui se produisent. Mais c'est comme ça. C'est toujours le tragique qui prend le dessus. Et quand on regarde certains journaux à sensation, je dirais, oui, c'est leur business. Et ils savent que plus ils vont mettre des choses terribles, plus ils vont, ça va fonctionner pour eux. Ça nous parle de nous aussi. Hein. On est quelque part un peu bizarre, non ? Alors, on y pense de façon un peu inconsciente souvent. On n'imagine pas que cela puisse nous arriver. C'est toujours un peu pour les autres. C'est toujours au loin. Hein, c'est toujours ailleurs et on ne se sent pas forcément concerné. Et pourtant, nous marchons tous dans la vie avec certaines insouciances, certaines innocences, on va dire la chose comme cela, jusqu'au jour, eh bien, l'impensable se produit. Ce que on n'avait pas imaginé, ça se produit, oui, mais ça ne se produit pas que pour les autres. C'est les choses qui nous atteignent, qui nous touchent. Quand arrive eh bien, la catastrophe, nous réagissons généralement et nous sommes atteints de différentes situations, de différents maux, de différentes souffrances, de situations que l'on n'apprécie pas forcément. Et nous sommes appelés à réagir. Et alors, on adopte soit toutes sortes d'attitudes. Soit on va s'endurcir, soit on va se fermer, soit on va partir dans la révolte, ou alors, au contraire, on va laisser la chose nous écraser, nous tomber dessus. Ça va nous laisser les bras ballants et on va être comme ça en réaction. Et nous le savons, bien des malheurs frappent les uns ou les autres, des individus. Et ces choses nous heurtent aussi quand ce sont des proches. Et il y a des souffrances qui se produisent. Il y a, et c'est parfois ce que l'on appelle des innocents, des personnes qui subissent injustement et ça nous scandalise. Vous savez, l'actualité a été défrayée cette semaine donc par les migrants. Et Briançon, nous sommes bien placés pour ça. Et c'est des centaines de personnes qui arrivent là, de ces pays eh bien, qui font l'actualité ailleurs et qui sont en guerre et pour lesquels ils essayent d'échapper. L'Afghanistan, eh bien, oui, ils sont là. Et ils échappent à tout prix. Mais que ferions-nous si nous étions à leur place ? Ben on ne sait pas comment on réagirait. On ne sait pas. Et c'est une tragédie. Et quand on voit ces hommes, ces femmes, ces couples, ces familles, parce qu'il y a aussi des enfants, ben, on est humain. Je vous disais tout à l'heure, là-haut, il fait froid, il gèle la nuit. Eh bien, vous ne pouvez pas les laisser dehors. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Oui, et il y a toutes ces choses qui nous scandalisent, qui nous révoltent. Et souvent, nous refusons, nous allons de suite dans ces propos. Hein, s'il y avait un Dieu, Oui, Dieu n'y est pas toujours pour grand-chose dans tout ça. Mais ça, on ne le voit pas ou on ne l'accepte pas. Nous refusons parfois le mal, beaucoup se révoltent contre Dieu, mais tout est-il du ressort de Dieu? Cette humanité veut vivre sans Dieu. Et nous voulons parfois, en tant qu'individu, vivre sans Dieu. Je veux faire comme je veux. Je n'ai pas besoin de Dieu. C'est souvent notre réaction. Et alors, quand il y a quelque chose qui nous atteint, de suite, on en veut à Dieu. Mais il nous a laissés libres. Il nous a laissés faire comme on le voulait. Et cette humanité est livrée à elle-même parce qu'elle ne veut pas de Dieu. Mais Dieu entend le cri du malheureux, de celui qui crie à lui ou qui se tourne vers lui. Dieu le voit. Pendant des siècles, les gens, je parle de manière générale, ont cru que le malheur s'abat sur celui qui est coupable. Ah, si t'arrives ça, mon prof, c'est que tu caches quelque chose. Tu as fait quelque chose de mal. Et puis, les anciens disaient, ben, le bon Dieu t'a puni. Vous savez, ça passe souvent dans l'inconscient. On ne s'en rend pas compte. Mais ça nous façonne. Et souvent, la réaction, quand quelque chose se produit qui n'est pas dans ce qu'on attendait ou qui nous atteint, alors qu'est-ce que j'ai encore fait au bon Dieu? Vous connaissez cette expression? Et inconsciemment, on se dit, je suis en train d'être puni pour quelque chose que j'ai fait. Ben, je voudrais vous dire que Dieu n'est pas comme ça. Oui, il y a des conséquences à nos erreurs, à nos manquements, à nos fautes. On le sait. Dans bien des domaines. Si on le sait dans le plan de la santé. Fumer, ça peut être un plaisir, mais ça rend malade. Ah, c'est pas du jour au lendemain. Et on s'aperçoit pas de la chose. On le sait. Des excès en tout genre, eh bien, ont leur répercussion sur la santé. Et puis, quand on commence à être diminué dans certains domaines de la santé, on se dit « Ah, si j'avais su, j'aurais fait attention, j'aurais pris un peu plus soin de moi. » Oui, mais le mal est fait, on va dire. Mais ça, c'est de notre responsabilité, entre autres. Si on se conduit n'importe comment, il y a toujours des répercussions si on ne fait pas attention. Alors, consciemment ou inconsciemment, nous mettons en lien ce qui nous arrive avec nos fautes. C'est comme ça, c'est un mécanisme qui s'enclenche toujours. Oui, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Et quand on lit le livre de Job, les amis de Job, eh bien, ils sont là et alors, comme je dis souvent, ils ont été ses amis tant qu'ils sont restés dans le silence. Parce que quand ils ont commencé à parler, ils l'ont... Excusez l'expression, mais ils l'ont descendu encore plus. En quelque sorte, Job, la chose, tu le sais, s'il nous arrive des choses, c'est en rapport de nos fautes. Je résume là. Et ils l'ont accablé, le poussant jusqu'au bout. Allez, à vous, dis. C'est pas pour rien que tu te trouves dans cette situation. Parce que il faut bien se dire que ces amis-là, ils tenaient Job pour quand même quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui servait Dieu. Et si il lui arrivait ça, malgré sa foi, malgré sa confiance en Dieu, tout le monde est toujours un peu conscient de ses limites, de ses fautes, de ses manques. Et ils se disent inconsciemment, mais ils se le disent quand même, si ça arrive à Job, alors nous... Ben oui, mais c'est là où on a tout faux quand on met les choses en lien comme cela. On n'en sort plus. C'est accablant. Vous avez dans l'Évangile cette histoire, ce témoignage de cet homme qui était aveugle de naissance et qui rencontre le Seigneur. Et de suite, la question qui vient, c'est « Maître, qui a péché ? Lui ou ses parents ?» Et Jésus dira, vous n'avez rien compris. Quelle que soit la situation, je vais faire grâce et Dieu va se glorifier. Dans ce récit que nous avons parcouru, que nous avons lu, on rencontre le même schéma de pensée. Ce qui arrive à ces Galiléens en pèlerinage, à ces 18 Judéens là, qui étaient à la tour de Siloé et qui s'est écrasé sur eux, est-ce que ça prouverait qu'ils sont de grands coupables? Et Jésus demande à ceux qui rapportent les faits, hein, est-ce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que les autres? Pour avoir subi un tel sort, est-ce qu'ils étaient plus coupables que tous les autres? Et la réponse de Jésus est claire. Il rejette cette mentalité. Cette mentalité de penser que ce qui nous arrive est en lien avec nos fautes et nos erreurs. Cette mentalité que certains ont de se croire plus exemplaires que ceux sur qui le malheur s'acharne, comme si on était épargné, on pouvait être épargné, comme si certains pouvaient être rassurés sur leur droiture et leur justice, par le fait que jusque-là, tout va bien. Mais ça ne prouve rien. Quel lien établir entre ce qui nous arrive et notre situation morale et spirituelle? Les événements tragiques frappent les personnes indépendamment de leur valeur morale. C'est évident que si, comme on dit, vous cherchez le bâton pour vous faire battre, si vous voulez toujours vous conduire en hors la loi, vous n'irez pas très loin. Si vous cherchez toujours des ennuis auprès des autres, vous risquez de trouver les choses vous revenir sur le coin de la figure. C'est évident. Soyons réalistes. Mais Jésus nous amène à considérer les choses autrement. Il saisit cette occasion, comme on peut y être confronté dans ce qu'on entend tous les jours. Jésus nous amène à considérer les choses d'une autre manière. Il nous renvoie à chacun d'entre nous, à ceux qui étaient là, qui l'écoutaient, mais à nous aussi. Il nous renvoie à nous-mêmes. Nous sommes, dans le fond, nous sommes tous des menacés. Nous sommes tous, eh bien, menacés. Oui, je vous le dis au verset 5, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus nous interpelle par cet aspect qui arrive physiquement à ces personnes qui perdent la vie. Et en fait, il va sur le terrain spirituel. Il se sert de cela pour nous interpeller sur notre situation spirituelle de notre relation à Dieu. Oui, l'avertissement, l'interpellation de Jésus est là pour nous amener notre pensée jusqu'au fait du jugement éternel de Dieu, devant qui tous les hommes sont amenés à comparaître. Nous serons trouvés tous coupables et tous dignes de condamnation, à moins que nous passions par la repentance et le fait de nous convertir, de nous tourner vers Dieu et de cesser de vouloir penser, croire que nous sommes suffisants à nous-mêmes et que nous n'avons pas besoin de Dieu. Jésus invite donc ses interlocuteurs, là, à une prise de conscience, à regarder ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes et à juger non pas les actes et les autres, mais à juger la nature de leur état d'âme et à sentir, eh bien, le sens de leur existence sur le regard de Dieu. Prendre conscience que de nous-mêmes, nous sommes des êtres perdus. Heureux, dira Jésus dans l'évangile de Matthieu, heureux les pauvres en eux-mêmes. Heureux celui ou celle qui se reconnaît pauvre et qui dit simplement « je ne suis pas en mesure de mener ma vie dans ce qui sera bon et bien. J'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'être secouru. J'ai besoin de trouver la paix avec Dieu. » Ainsi, ces événements, ces malheurs ont comme une valeur d'avertissement ça nous sert d'exemple pour nous interpeller. La maladie, les accidents, les choses imprévisibles, pour qui que ce soit, ne le mettons pas en rapport de nos fautes passées. Nous sommes pécheurs par nature. Point barre. C'est notre nature. Le mal spirituel que l'on appelle le péché, la désobéissance, la révolte à l'égard de Dieu est en nous. Et nous sommes tous des coupables. Et c'est pour cela que tout cela nous conduit à la mort. À la mort, la séparation d'avec Dieu. La mort physique, oui, mais bien au-delà encore. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à un changement de mentalité, de direction. Comprendre que on n'est pas plus que les autres. On n'est pas meilleur que les autres. Généralement, on a ce genre d'utopie à l'adolescence. On pense qu'on va faire mieux que les parents, que les vieux. On pense qu'on sera... Et puis, avec les étapes de la vie, etc., on prend conscience que non, on n'est pas mieux, on n'est pas plus. Hein, et que parfois, oui, on passe un peu à côté. Oui. Si face à notre conscience d'être perdu, que nous sommes, eh bien, nous percevons ce que Dieu veut nous dire et veut faire, alors il y a pour nous une grande bénédiction. Nous tourner vers Dieu. Et c'est grâce à l'action bienveillante de Dieu, bien sûr, qui donne et qui permet à chacun de faire ce chemin intérieur. Et le Seigneur, par son esprit, vient nous donner de prendre conscience là, il vient nous convaincre de cela, et il nous invite non pas à nous tourner vers lui pour nous écraser, nous anéantir, au contraire, pour nous libérer de toute inquiétude face aux choses de la vie, nous donner la paix dont on a besoin et nous libérer de ce fardeau que l'on repousse souvent, la conscience de notre péché, de nos manquements, de nos fautes et dans lesquelles on a parfois l'impression que ça nous poursuit. Il faut vous libérer de ça. Et pas rester avec ces choses du passé, des choses peut-être plus ou moins graves ou coupables, et que vous savez peut-être que personne ne sait autour de vous qu'il n'y a que vous, et que vous savez que seul vous portez cela. Et vous dites, un jour je vais le payer, un jour je vais le payer. Mais restez pas avec cela. Il faut se libérer de ce poids-là. Dieu est celui qui apporte le pardon, qui efface le poids de la faute. Il est ce libérateur. L'amour de Dieu est toujours là, offert, proposé à chacun d'entre nous de l'accueillir. J'en viens à cette parabole que Jésus donne et il va, entre guillemets, enfoncer le clou avec cette chose-là. Et peut-être ces propos, cette parabole peut peut-être nous choquer dans les termes employés, mais ce n'est qu'une parabole dans le sens que le Seigneur nous interpelle sur certains aspects et il nous parle de cet homme qui a un figuier planté dans sa vigne, puis il n'y trouve pas de fruits. Il n'y trouve pas de fruits. Et il y a là une image assez forte que Jésus donne. Et on voit l'attention que porte le vigneron à l'égard de ce plant improductif pour lequel eh bien, il va aussi mener, il va intercéder, comme on dit, il va défendre la cause devant le propriétaire de la vigne qui veut lui, on élimine. Vous avez tous un jardin ou des plantes ou des choses diverses. Et parfois, eh bien, bon... Cette chose-là, ça avance pas, ça produit rien. Allez, on supprime et on va remettre autre chose qui va porter du fruit, n'est-ce pas? Ou si vous avez essayé une variété de pommes de terre pour votre jardin et que ça n'a pas produit, vous dites, là, je ne vais pas repartir sur cette variété-là. Ou si c'est un arbre, etc., on peut faire le parallèle. Et le propriétaire qui cherche du fruit sur ce figuier nous parle, bien sûr, de la même manière de Dieu qui cherche en tout être humain un fruit. Alors ça peut paraître un peu abrupt, se dire waouh, comme ça tu éliminerais C'est la question qu'on peut se poser. Et alors là, peut-être on se dit oh là là, il est trop dur, c'est terrible cela. Ben, c'est simplement pour nous amener à réfléchir, de dire mais quel fruit je porte? Quel est le sens de ma vie? Oui, dans le cœur de tout être humain, il y a le désir de se réaliser. En tant qu'homme, en tant que femme, on a envie de construire une famille, on a envie de se réaliser dans le domaine professionnel, on a envie d'avoir des projets, et c'est tout à fait normal, ça fait partie de notre vie, nous sommes conçus ainsi. Et sur le plan spirituel, il en est quoi? Quel est le fruit? Et là, en fait, cette parabole, elle ne met pas en avant le fait que Dieu supprimerait l'un ou l'autre, mais le fait que le Seigneur voudrait nous voir porter du fruit. Et il y a donc ce travail du vigneron, là, auprès de ce figuier, qui dit, patiente encore. On va faire le nécessaire, on va mettre certaines choses autour des racines, on va mettre du fumier, ça va le nourrir, il va peut-être se fortifier, et puis ça va... Les soins que l'on peut apporter aux plantes, hein, c'est une chose importante. On prend soin du jardin, n'est-ce pas? Si on veut manger des salades ou des tomates, ou... et bien on s'en occupe. Et on les arrose, etc. On connaît cela et on prépare la terre en amont. On met ce qu'il faut dans le jardin pour que justement les choses portent du fruit. Ce qu'on y sème ou ce qu'on y plante porte du fruit. Il en est de la même manière de Dieu à notre égard. Il est celui qui demande encore patience. Il est celui qui patiente et qui va encore manifester sa patience, sa bonté, malgré le fait qu'on ne mérite rien. Nous ne méritons rien. Il faut toujours se rappeler que Dieu ne nous doit rien. Et ce qu'il donne, ce qu'il apporte, c'est sa grâce et c'est par amour. C'est ce qui nous amène à réfléchir et de dire, mais quel fruit je porte? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Se laisser interpeller. Faire l'expérience en se tournant vers Dieu, de sa bonté, de sa patience. Et quand on regarde en arrière, souvent, se dire, quand on remet sa vie au Seigneur, de réaliser combien il est déjà intervenu. Je pense là à mon père, qui, comme un certain nombre, a fait la guerre d'Algérie, a été confronté à toutes sortes de situations. Comme il dit, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais... tuer personne ou amener à cela, mais il a été confronté à des situations vraiment difficiles et tragiques. Et il s'était dit, quand je rentrerai en France, je lirai la Bible. Il avait cette pensée-là. Et quand il est rentré en France, c'est ce qu'il a fait. Et puis, il a commencé à suivre quelques réunions dans l'église, là où il était. Et puis, il y a des choses qui travaillaient son cœur. Et un jour, qu'il coupait du bois, un hiver, coupé du bois. Et là, tout d'un coup, Dieu lui fait voir partout où il l'a protégé. Et mon père dit que ça l'a bouleversé de voir que malgré son ignorance, une forme d'inconscience, Dieu avait veillé sur lui. Bien des situations, des événements, etc. Alors il dit, j'étais en train de couper du bois et je pleurais. Il dit, si quelqu'un était venu à ce moment-là, il m'aurait trouvé en train de pleurer. Réalisant tout l'amour de Dieu pour lui. Oui, il y a des choses comme ça qu'on réalise après coup. Et Dieu est en train de nous protéger. Il met entre guillemets du fumier. Il met un certain nombre de choses. Il nous protège, il pourvoit. Il a déjà tant fait pour vous. Et il patiente jusqu'au moment où vous allez tourner votre cœur vers lui. Ou est-ce que vous allez capituler pour lui confier votre vie? Alors, quel est le sens de ma vie? Après quoi je cours? Les questions de la vie, hein? Où en suis-je sur le plan spirituel? Est-ce que j'ai fait la paix avec Dieu? Oui, de se tourner vers le Seigneur, ça peut sembler petit, ça peut sembler quelque chose d'humiliant, ça peut sembler quelque chose eh bien, contre lequel on résiste parce qu'on ne veut pas, parce qu'il y a notre orgueil, mais c'est rien à côté de l'amour et de la grâce de Dieu. Dans notre aujourd'hui, là, dans le temps dont nous disposons, parce que c'est celui que l'on a, avec l'aide de Dieu, nous pouvons vivre avec l'assurance de la vie éternelle. Nous devons dans notre vie terrestre, faire face à toutes sortes de situations d'insatisfaction, des situations que nous ne comprendrons peut-être pas toujours de suite, face à notre fragilité, mais avec cette assurance que Dieu est là, que Dieu est avec nous, que Dieu prend soin de nous. Je termine par ce verset de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 2, verset 4, où il a cette parole en disant « Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse ou méprises-tu la bonté et la puissance de Dieu ? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés ? N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure et de te pousser à la conversion ? Considère les choses autrement, peut-être à partir de maintenant, et de dire, Seigneur, je prétends à beaucoup, mais je suis rien. Aie pitié de moi, secours-moi. On va prier le Seigneur. Seigneur, je te bénis de ce que tu nous donnes, malgré notre cœur, parfois réticent, rebelle. Je te bénis de ce que tu nous donnes l'occasion de nous tourner vers toi, de découvrir ton amour, d'expérimenter ton secours. Seigneur, je te prie de nous accorder ta grâce. Tu vois les situations, les cœurs de chacun d'entre nous ici présents. Tu sais ce qui nous anime, tu sais ce qui nous porte, ce qui nous retient, ce qui nous a atteint, ce qui nous a brisé peut-être. Tu vois ce qui nous a anéanti. Tu vois peut-être ce après quoi on court. Seigneur, tu connais chacune de nos vies et tu veux nous interpeller là dans ce moment par rapport peut-être à certains aspects de nos vies pour nous faire prendre conscience de notre perdition. Que, Seigneur, nous avons besoin de toi. Je te prie, Seigneur, pour que tu visites chacun et que tu accordes ta grâce, que tu te révèles et que tu inondes le cœur, Seigneur, de celui qui a besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Amen.